ressuscité. À toi la victoire.
Bonjour chers amis, Daniel Zavagnon au micro, je vous souhaite la bienvenue sur le site de l'EPUB Blegny. Je suis heureux de pouvoir introduire ce nouveau culte audio. Une fois de plus, nous nous retrouvons éloignés les uns des autres, attendant de pouvoir aménager nos locaux afin de pouvoir accueillir de nouveau nos fidèles. Les dernières nouvelles sont un peu plus optimistes, mais nous attendrons encore d'autres précisions et éclaircissements afin de pouvoir rouvrir nos lieux de culte. J'espère que vous vous portez tous pour le mieux. Je citerai l'apôtre Jean qui disait ceci à l'attention de ses amis bien-aimés. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est le souhait de mon cœur pour chacun de vous. » Malgré la distance qui nous sépare, et la longueur de ce confinement, nos sentiments les uns pour les autres demeurent intacts. Et notre communion avec notre Dieu est forte, malgré notre séparation de corps, mais non d'esprit. N'oublions pas, le moment de prière que nous avons le mardi entre 19h et 19h30, ensemble en esprit. Si vous avez des sujets particuliers de prière, veuillez contacter Jean-Luc, qui les répercutera à l'ensemble de la communauté. Je vous propose maintenant d'écouter un chant magnifique. Écoutez-le avec attention.
Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies.
Esprit de lumière.
Prions le Seigneur afin qu'il bénisse ce moment en sa présence. Notre Père céleste, nous te bénissons encore ce matin pour ce moment qui nous est donné d'écouter ta parole. Nous ne pouvons pas nous retrouver au sein de notre lieu de culte habituel. Mais nous sommes tous d'un même esprit, réunis ensemble grâce aux merveilles de la technologie. Nous te demandons de bénir ce culte, ô Dieu Seigneur. Viens nous faire du bien. Tu nous connais. Tu sais de quoi nous avons besoin. Viens nous fortifier et nous bénir. Je te prie, si quelqu'un en cet instant est souffrant, viens poser ta main guérissante. Si quelqu'un est découragé, viens le relever. Que ces quelques minutes que nous passerons à écouter ta parole servent à nous encourager et nous faire avancer dans la foi. Nous te demandons tout cela dans le beau nom de ton Fils Jésus. Amen. Je désire vous poser une question ce matin. Qu'espérez-vous? Oh, je sais, il y a plusieurs réponses possibles à cela. Je pense que la majorité d'entre vous répondrait « Oh, nous espérons sortir rapidement de ce confinement et pouvoir vivre de nouveau comme auparavant. » D'autres, et je pense que c'est la majorité, espèrent que le Covid-19 ne soit bientôt plus qu'un mauvais souvenir et qu'il ne viendra plus frapper à notre porte. L'on peut espérer retrouver la santé pour ceux qui sont malades, pour d'autres retrouver du travail, car avec cette crise sanitaire, les dégâts sur l'emploi ont été considérables. Et je pourrais faire une longue liste de ce que nous espérons dans notre vie. Je vais énumérer quelques souhaits que nous pouvons avoir, ceci n'étant pas une liste exhaustive. Espérer que nos enfants réussissent dans leur vie, par exemple. Espérer rencontrer l'âme sœur. Espérer gagner au loto. Espérer avoir une belle situation, etc., etc. Et j'en passe, à vous de compléter quelles sont vos espérances. Mais pour nous chrétiens, notre plus grande espérance doit être en Christ, qui gère notre vie. Car avant de le connaître, nous étions loin de lui et loin de toute espérance pour notre éternité. Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 12, nous rappelle notre ancienne situation. Il disait ceci, « Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Chers amis, frères et sœurs, nous vivions loin de Dieu. Notre espérance se limitait aux choses de la terre. Mais notre rencontre avec le Christ a changé toutes choses pour nous. Maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous avons une autre espérance. L'apôtre Jean dit ceci, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Ce passage se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 3, le verset 2. Chers amis, nous sommes étrangers sur cette terre, car nous sommes citoyens des cieux. Notre espérance à nous est de vivre près de Dieu pour l'éternité. Et je désire citer l'apôtre Pierre pour conclure. Il disait ceci dans sa première épître, au chapitre 1, les versets 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux, à nous, qui, par la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Avant de laisser la place à Guy de Feldre, qui nous apportera le message de ce matin, nous demanderons la bénédiction du Seigneur sur sa sainte parole. Seigneur, ta parole est vérité et vie. Rends-nous attentifs à ton message, que notre frère soit ton porte-parole. Accorde-lui l'onction de ton Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous apporter ce que tu désires que nous entendions. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps de partage. Amen.
Chers frères et sœurs, comme vous me manquez. Cela fait tellement longtemps que nous sommes privés de culte communautaire. Le livre aux Hébreux, au chapitre 10, verset 25, nous encourage à ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais plutôt à nous exhorter réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Le coronavirus en a décidé autrement. Mes amis, prenons courage. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un thème qui m'est cher. L'espérance. L'espérance du chrétien en la vie éternelle. Je ne crois pas me tromper en disant que les plus anciens d'entre nous, les plus vieux, connaissent par cœur le chant « Je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance vers toi, divin roi. Grande est ma faiblesse, mon indignité, mais dans ta tendresse, tu m'as racheté. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. » Eh bien justement, aujourd'hui je voudrais partager avec vous ces trois mots, la foi, l'espérance et l'amour. Nous trouvons ces trois mots accolés dans le verset 13 de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 13. Sans trop m'avancer, je dirais, nous connaissons tous, plus ou moins, 1 Corinthiens 13. Mais je ne suis pas certain que nous nous souvenions de ces trois mots, la foi, l'espérance et l'amour. Nous commencerons notre partage par la lecture de la parole de Dieu, 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Supposons que je parle les langues des êtres humains, et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de la part de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de dépasser des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient et bon, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux. L'amour n'est pas égoïste, il ne s'irrite pas, il n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. En toutes circonstances, il fait face, il garde la foi, il espère, il persévère. L'amour est éternel. Les messages reçus de Dieu cesseront un jour. Le don de parler en des langues inconnues prendra fin. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons de manière incomplète et nous annonçons des messages reçus de Dieu de façon limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais que de façon incomplète, mais alors je connaîtrai Dieu complètement comme lui-même me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois est l'amour. Jusque-là, la lecture de la parole. Pour le partage de ce jour, j'ai choisi de vous parler de la foi, de l'espérance et de l'amour, et plus particulièrement, de l'espérance. Nous vivons une époque où l'espoir est au centre de nos préoccupations Il suffit d'ouvrir notre journal pour y lire des titres tels que ceux-ci. Coronavirus. Tous les espoirs sont portés vers ce vaccin mis au point par des chercheurs d'Oxford. Covid-19. Une mince lueur d'espoir en Europe. Etc. etc. La plupart des journaux nous annoncent qu'il y a de l'espoir. Si vous prenez la peine de parler avec vos amis au sujet du coronavirus, certainement vous pourrez entendre quelqu'un dire « J'espère, oui, j'espère que cela va bientôt se terminer. J'ai bon espoir. » Chers amis, j'ai bien peur que nous confondions ces deux mots, l'espoir et l'espérance. Et je pense qu'il est important, pour le chrétien, de bien saisir la différence qu'il y a entre ces deux mots. Albert Camus a dit cette phrase importante « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Le chrétien nomme-t-il mal les choses lorsqu'il dit « c'est mon défaut, c'est ma faiblesse, tu vois, c'est plus fort que moi ». Personne n'est parfait. Pourquoi ne pas dire la vérité? Pourquoi mal nommer les choses? Pourquoi ne pas dire tout simplement « c'est mon péché » Et croyez-moi, cela fait toute la différence. Cela a toute son importance. Mal nommer les choses ne nous aidera pas à progresser dans la foi chrétienne. Personne, non personne, n'a remporté la victoire sur le péché en ne reconnaissant pas qu'il est pécheur. Mais revenons à notre sujet. Le chrétien nomme-t-il mal les choses? Y a-t-il vraiment une différence entre l'espoir et l'espérance? Nous avons deux mots qui disent apparemment la même chose. Quelle nuance faudrait-il apporter entre ces deux mots? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Le passage que nous venons de lire, nous le connaissons tous. Ce passage, nous l'avons entendu à maintes reprises, lors des mariages. Il y a même des non-chrétiens qui font lire 1 Corinthiens 13 lors de cette cérémonie. Tellement ce passage qui nous parle de l'amour est beau. L'apôtre Paul nous dit à la fin de ce merveilleux passage, au verset 13, « Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. » Espoir, espérance, les dictionnaires en font presque des synonymes. Pourtant, je voudrais établir une distinction entre ces deux mots. L'espoir. L'espoir est une attitude qui appartient à la condition humaine. L'espoir est une disposition de l'esprit humain, reposant sur l'attente d'une situation meilleure à celle existante. L'espoir, mes amis, c'est l'homme sans Dieu. Dieu ne fait jamais partie prenante dans l'espoir. Qu'est-ce que l'espoir? Eh bien, lorsque je suis né, mes parents avaient espéré avoir une fille. Pas de chance. Je suis le dernier d'une fratrie de 4. 4 garçons, pas une seule fille. Quelle déception pour mes parents. Pourtant, ils avaient bon espoir. La grossesse de ma maman avait été bien différente de celle qu'elle avait connue pour mes frères. Espoir déçu. L'espoir appartient à la condition humaine. L'homme joue au loto dans l'espoir de gagner. Lorsque vous vous trouvez au chevet d'un malade et que l'on vous dit « il n'y a plus d'espoir », cela signifie que la médecine, l'homme, a tout fait. Humainement parlant, il n'y a plus rien que l'on puisse faire. Dieu ne fait pas partie de l'équation. Il est mis au dehors. L'espoir, c'est l'homme sans Dieu. Tandis que l'espérance nous parle de Dieu. Elle nous parle de la confiance que nous avons en lui. L'espérance nous parle de la confiance que nous avons en sa parole, de la confiance au sacrifice de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus. L'espérance est une vertu théologale et nous reviendrons tout à l'heure sur ce mot. L'espérance découle de l'épanouissement du chrétien. L'espérance procède de l'absolu. L'espérance nous parle de Dieu. L'espérance fait partie de qualités que tout chrétien doit posséder. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps pour analyser tout le texte que nous venons de lire. Notre but sera de réfléchir sur les trois choses qui demeurent, et plus particulièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une de ces trois choses qui demeurent, l'espérance. À côté de l'amour et de la foi, il y a l'espérance. Et on n'en parle pas, ou alors si peu, de l'espérance du chrétien. J'ai dit tout à l'heure que ces trois vertus étaient des vertus théologales. Une vertu théologale est, selon la théologie chrétienne, une vertu qui doit guider les hommes dans leur rapport au monde, dans leur rapport avec Dieu. Les vertus théologales sont au nombre de trois, la foi, l'espérance et l'amour. Ces vertus sont tellement importantes que des centaines, des milliers de pages ont été noircies pour les expliquer. Nous venons de lire un long texte sur l'amour et sur les dons spirituels. Les dons spirituels sont très importants pour la croissance de l'Église. Sans dons spirituels, il n'y a pas de croissance de l'Église. Pourtant, il y a trois choses. Trois choses qui surpassent les dons spirituels. Il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Avez-vous remarqué comme l'espérance est bien accompagnée, elle est entourée de la foi et l'amour. L'apôtre Paul exalte ces trois choses. Voyons ensemble ce que sont ces trois choses qui demeurent. Qu'est-ce que la foi ? La parole de Dieu nous enseigne que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Qu'est-ce que l'espérance ? L'espérance, c'est une attente joyeuse et confiante de ce que Dieu nous réserve. Qu'est-ce que l'amour ? L'amour est une pleine satisfaction de se savoir aimé. C'est le sentiment de savoir que quelqu'un fait tout pour notre bonheur. L'amour, c'est aussi la pleine satisfaction de faire le bonheur des autres. L'amour, c'est agir en toutes circonstances comme Jésus aurait agi. Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Maintenant, arrêtons-nous un instant sur l'espérance. Je me suis demandé pourquoi l'apôtre Paul nous dit que l'espérance demeure toujours. Selon le dictionnaire, l'espérance chrétienne est fondée sur la certitude de la foi dans la parole de Dieu en la personne de Jésus-Christ. L'espérance chrétienne est l'attente ferme d'un bien que l'on désire. C'est une attente confiante en la réalisation des promesses de Dieu. Alors que la pandémie bat son plein, nous pourrions être très découragés. Le monde va mal, de plus en plus mal, et cela ne s'améliorera pas. Nous sommes parfois effarés, découragés, nous nous sentons impuissants devant le mal et la violence qui nous entourent. Dans ces moments de confinement, nous nous sentons seuls. Pourtant, le chrétien n'est pas seul. Même s'il a tout perdu, il lui reste l'espérance. L'espérance en la vie éternelle. L'espérance chrétienne est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Jésus a promis qu'il allait nous préparer une place au ciel. Jean, chapitre 14, versets 1 à 4. Jésus est le fondement de notre espérance. Lorsque nous écoutons les discours contradictoires que les hommes tiennent sur le coronavirus, nous sommes à chaque fois moins rassurés que la fois précédente. Que faut-il attendre des hommes ? La vérité ? Permettez-moi d'en douter. Que faut-il attendre des hommes ? Sur le coronavirus ? Peu de connaissances. beaucoup d'ignorance. Certains croient bien faire. Ils voudraient nous rassurer. Nous rassurer en affichant ce slogan « Tout va bien ». Mais sur quoi se base-t-il pour affirmer que tout va bien? Si vous le voulez bien, nous lirons ensemble Jérémie. Jérémie chapitre 7, versets 4 à 8. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en disant, c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Les faux prophètes de l'époque de Jérémie disaient « Paix, 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 jamais Dieu ne permettra que l'on détruise sa maison. » La suite leur prouva que non. Les faux prophètes de notre époque disent « Tout va bien, tout va bien, tout va bien, pas besoin de masque, non, non. » Tout va bien. Nous avons bon espoir. Nous espérons. L'homme de tout temps ne s'est-il pas sorti des pires embûches? L'espérance des hommes est trompeuse. Elle ne sert à rien, nous dit Jérémie au verset 8. Pourquoi l'espérance des hommes est-elle trompeuse? Parce qu'elle se base sur la présomption. Mais qu'est-ce que c'est que la présomption? Eh bien, le dictionnaire nous dit ceci. La présomption est fondée sur des apparences, sur des suppositions, sur des indices, mais non sur des preuves. La présomption, c'est supposer que l'on tient la vérité jusqu'à preuve du contraire. Nous sommes prêts à tout croire parce que cela nous arrange. Pas parce que c'est la vérité, non. Parce que cela nous arrange. Ce genre d'espoir deviendra très vite du désespoir. Pour nous croyants, l'espérance est basée sur toute autre chose. Notre espérance est basée sur les promesses de Dieu. Et lorsque l'on regarde les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses que Dieu a faites à son peuple, nous pouvons voir que Dieu respecte toujours ses promesses. Alors prenons l'exemple d'Abraham. Nous lisons dans l'Épître aux Romains au chapitre 4, au verset 18. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et il est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Verset 20. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié, fortifié par la foi, et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham n'avait pas d'enfant. Dieu lui a fait cette promesse d'une postérité nombreuse. Il avait 75 ans lorsque Dieu lui fit cette promesse. Et c'est 25 années plus tard, 25 longues années plus tard, que cette promesse s'est accomplie. Pendant 25 ans, Abraham a espéré contre toute espérance. Pendant 25 ans, Abraham avait une attente confiante en Dieu. Il a eu foi en l'Éternel, son Dieu. Malgré tout, envers et contre tout, il a attendu la réalisation de la promesse de Dieu. Pourtant, à vue humaine, plus le temps s'écoulait et plus Abraham et Sarah avaient physiquement de moins en moins de chances d'avoir un enfant. Que devons-nous retenir de ce passage? Dieu accomplit la promesse faite à Abraham. Dieu tient toujours ses promesses. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre, chapitre 23, verset 19. L'espérance que Dieu nous donne ne trompe pas. Ses promesses sont claires. Rien ne va le faire changer d'avis. Cette promesse dont nous venons de parler, avoir une descendance nombreuse, était pour Abraham. Mais Dieu nous a fait à nous qui sommes ses enfants. Dieu nous a aussi fait une merveilleuse promesse, la plus belle des promesses. Cette promesse est un réconfort dans la tempête. Paul dira en parlant d'elle, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, si c'est dans cette vie seulement que nous avons l'espérance, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Quel est le contenu de cette promesse? Nous lisons dans l'Épître aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Une autre lecture dans Tite, chapitre 1, versets 1 et 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour amener à la foi ceux que Dieu a choisis et leur a fait connaître la vérité qui mène à s'attacher à Dieu. Si je suis apôtre, c'est aussi pour qu'ils possèdent l'espérance de la vie éternelle. Dieu qui ne ment pas nous a promis cette vie de toute éternité. À la lecture de cette promesse, la vie éternelle auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous ne devrions pas être les plus affligés des hommes lorsqu'une calamité nous atteint. Parce que nous avons cette espérance, une espérance qui ne trompe pas. Nous avons dès à présent la vie éternelle. Dieu ne ment point. Nous avons non seulement la vie éternelle, mais nous sommes déjà assis, maintenant, dans les lieux célestes. Et qu'est-ce qui me fait dire cela? Eh bien, lisons ensemble l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 5 à 6. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Maintenant, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Peu importe ce qui pourra nous arriver dans ce monde, notre espérance est ancrée au-delà de la tombe. Une place nous est préparée. Tout ce qu'il y a de meilleur nous y attend. Bien plus, nous sommes déjà assis. Nous avons notre place. Mais me direz-vous, cette espérance est-elle seulement pour le futur? N'a-t-elle donc pas d'effet dans notre vie sur cette terre? Présentement? Parce que c'est aujourd'hui, c'est maintenant que nous avons besoin de réconfort. Pas seulement pour le lendemain, pas seulement dans le futur. Non, c'est maintenant que nous avons besoin de réconfort. Mes amis, mes chers frères et sœurs, notre regard ne doit pas être tourné uniquement vers le passé, non plus dans le temps présent. Notre regard doit surtout se tourner vers l'avenir, parce que l'avenir dont je parle risque de durer longtemps, très longtemps. Il durera toute l'éternité. Et quand nous envisageons cet avenir, nous parlons d'espérance. Pourquoi voulons-nous tant rester? Qu'est-ce qui nous empêche de partir? Le meilleur pourtant n'est-il pas à venir? N'est-ce pas là notre espérance? Être dans la proximité de Dieu, source de tout ce qui est de meilleur. Je voudrais lire avec vous un texte qui se trouve dans le livre aux Hébreux, au chapitre 6, versets 18 à 19. Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Donc cette espérance en la vie éternelle, avec tout ce que cela comporte de glorieux. Cette espérance est un puissant encouragement. Elle est comme une ancre pour notre âme. Malgré les flots agités, l'ancre permet au bateau de rester stable. Cette espérance nous garde en toute sécurité. Elle nous garde au bon port. Dans un monde troublé où la tempête fait rage, cette ancre est solide, elle est sûre, parce que le fondement de cette ancre, c'est Jésus. Cette espérance est constante, elle est immuable, elle ne change pas, parce que c'est Christ lui-même qui est le rocher des siècles, et il ne change pas, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Cette espérance est un réel encouragement pour nous. Elle ne trompe pas pour le futur. Elle ne trompe pas non plus pour le présent. Notre espérance peut varier, c'est vrai. Il nous est dit que chacun de nous montre le même zèle pour conserver l'espérance jusqu'à la fin. Hébreux, chapitre 6, verset 11. Il nous est également dit de retenir fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux, chapitre 10, verset 23. Puisque cette espérance, cette promesse, semble varier suivant les circonstances, suivant mes circonstances, comment puis-je nourrir mon espérance? Romains, chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Au lieu d'écouter ce que les hommes disent, au lieu d'écouter ce que les hommes prévoient, écoutons plutôt la parole de Dieu. Écoutons ce que Dieu a à nous dire. Fortifions-nous, fortifions notre espérance. C'est la parole de Dieu qui nourrit notre espérance. C'est par la patience et la consolation que donnent les Écritures que nous possédons à tout jamais l'espérance. Mes amis, je termine. Posons-nous la question suivante. 3 minutes après ma mort, que se passera-t-il? Dans quelles conditions me trouverai-je? Qu'y a-t-il après le franchissement du voile? Qu'y a-t-il au terme de notre vie? Est-ce que ce que nous venons d'entendre dépassera la curiosité intellectuelle? Est-ce que ce que nous venons d'entendre va influencer nos choix et notre vie? L'attente des événements de la fin devrait, elle doit transformer notre vie et nos choix de façon très concrète dès aujourd'hui. À l'issue de ce partage, j'espère que nous ferons le bon choix. D'un côté, l'espoir humain. De l'autre, l'espérance de Dieu, la vie éternelle. En conclusion, nous pourrions dire ceci. Par la foi, nous recevons Jésus-Christ. Par l'espérance, nous nous voyons assis, avec Jésus, pour l'éternité, dans les lieux célestes, dès aujourd'hui, dès maintenant. Et par amour, nous agissons présentement, comme Jésus-Christ aurait agi dans les mêmes circonstances, celles que nous vivons aujourd'hui. Et si demain quelqu'un vient nous parler de notre espérance, sachons communiquer ce message. Notre espérance, c'est la vie éternelle. Amen. Maintenant, mes amis, avant de passer à la bénédiction finale, je voudrais que nous écoutions ce chant interprété par notre sœur Jacqueline, ce chant qui nous parle de l'espérance, de l'amour et de la foi.
Chers amis, notre culte dominical se termine. J'ai été très heureux de le passer avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vivre encore un culte audio, en attendant de pouvoir nous réunir de nouveau dans nos communautés. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Maintenant, recevons la bénédiction de notre Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Que Dieu vous garde. Rendez-vous dimanche prochain.